Europe 1. Bienvenue et bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Merci de votre présence. Vous êtes député de l'Essonne, président de Debout la France. Le déficit public de notre pays pour l'année 2023, initialement prévu à 4,9, explose 5,5%. Ce matin, Bruno Le Maire reconnaît un mauvais chiffre, mais affirme que sa détermination est totale à revenir dans les clous. Comment vous réagissez?
C'est surréaliste. On a un ministre de l'économie qui, depuis 2017... passe plus de temps à écrire des livres qu'à gérer les finances de la France. Il a écrit 8 livres en 7 ans. Moi, je ne sais pas comment il fait. Et si on regarde le bilan depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est plus de 800 milliards de dettes et on va arriver à 1000 milliards. Vous vous rendez compte? Les Mozart de la finance sont devenus les tocards de la finance.
Tocards, dites-vous?
Mais la France est en faillite.
Oui.
La France est en faillite. Et ce qui me révolte le plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai écrit un livre avant la présidentielle, Où va le pognon. Un livre concret où je recensais des économies. Parce que c'est facile de critiquer un déficit si on ne propose rien.
On va en parler.
J'ai proposé des économies. Ce qui me révolte le plus, c'est que Emmanuel Macron et Bruno Le Maire savaient depuis plus de six mois, que les finances dérapaient. Ils le savaient. Il y a une mission sénatoriale qui a été à Bercy vérifiée, qui a découvert l'étendue du désastre.
Sur pièce et sur place.
Sur pièce et sur place. Mmh. Et pendant ces derniers 6 mois, je ne fais pas de politique sur le passé, on pourrait parler du confinement. Souvenez-vous, j'étais l'un des seuls à dire pas de confinement, arrêtez cette folie. Bon, on passe là-dessus. Mais depuis 6 mois, ils savent que les comptes dérapent. Si vous avez chez vous un découvert à la banque et que votre découvert explose, vous faites quelque chose. Non. Et, non, mais c'est pire que ça.
Le ministre de l'économie, Nicolas Dumas, reconnaît, affirme qu'il y a eu moins de recettes que prévu.
Attendez, il le savait depuis 6 mois.
C'est-à-dire qu'il le savait. On dirait que consciemment, il klaxonnait vers la bille.
Je vais vous dire ce qui se passe. C'est que je pense que Bruno Le Maire savait, puisque le Sénat l'a vu dans les livres, sauf si Bruno Le Maire écrit des livres et ne va jamais voir son ministère. Bon, donc, soit il est complètement incompétent, soit il est d'un cynisme absolu. Non, mais la réalité, c'est que le vrai patron, c'est qui?
Dites-moi.
C'est Emmanuel Macron. Mmh. Qui a distribué des milliards depuis 6 mois? Quand Emmanuel Macron va à Bruxelles et distribue 13 milliards à l'Ukraine,
en tout
13
tout,
milliards
total.
En tout, si on compte la part de la France dans la facilité dite de paix, pour acheter des armes américaines, et si on compte les 3 milliards supplémentaires, 13 milliards, comme ça, si on compte les emprunts à taux variable indexés sur l'inflation, c'est un sujet un peu technique, mais vous savez que je vous en avais parlé déjà, je suis un des rares à en parler dans la classe politique française. Au lieu d'emprunter à taux fixe 100% de notre dette, on emprunte à taux variable 10%. Vous savez combien ça nous a coûté l'année dernière? 12 milliards.
Mais vous parlez, à
l'Union européenne, 10 milliards.
Le gouvernement affirme, est-ce que vous estimez que c'est faux, que la situation économique s'est beaucoup dégradée, notamment en Chine, qui a la situation géopolitique? Il n'y a aucune circonstance atténuante, selon
vous? C'est toujours la faute des autres. C'est jamais de leur faute. Vous savez, un artisan, si vous avez des artisans qui nous regardent, des commerçants, quand vous avez une trésorerie, y a un moment, c'est pas la faute des autres, c'est la vôtre. Il est en charge des deniers publics. La Déclaration des droits de l'homme de 1789, il est en charge des impôts. C'est l'argent des Français. Alors, je dis pas que c'est facile. Je dis simplement que quand on voit un trou se creuser, on ne distribue pas des dizaines de milliards. Et je propose des mesures précises. Si on avait suivi ce que je disais sur les emprunts à taux variables en empruntant toute notre dette à taux fixe, on aurait économisé 12 milliards par an. Par an. Si on ne versait pas tant d'argent à l'Union européenne, 10 milliards d'économies. Si on n'avait pas versé à l'Ukraine, 13 milliards. Les cartes vitales, on n'arrive toujours pas.
On ne peut pas rentrer dans toutes les pistes, mais on verse de l'argent à l'Union européenne parce qu'aussi on en a, même si on est un contributeur
net
important.
Net de 10 milliards.
Certes, par exemple, je vous dis, ce matin, Bruno Le Maire affirme qu'il va faire des économies, évidemment, sur l'État sans piocher, dit-il, dans les poches des Français. Est-ce que vous croyez à cette promesse de non-hausse des impôts? Alors que vous l'avez entendu, la petite musique dans la majorité, c'est de dire que le débat n'est pas tabou.
Alors je vais vous dire comment ça va se terminer avec eux. D'abord, ils vont taper sur les plus pauvres. Voilà. Ils vont ne pas indexer les pensions de retraite, ne pas indexer les fonctionnaires les plus modestes. Ils vont taper les pauvres alors qu'ils gaspillent l'argent des Français dans des gouffres. C'est scandaleux. Et deuxième point, ils vont augmenter les impôts. Ils l'ont déjà commencé. Je vais vous donner un exemple. La taxe sur l'électricité, ils l'ont augmentée. Ça, c'est pas un impôt.
Mais vous savez pourquoi ils l'ont augmenté ? Parce qu'ils sont revenus à une situation initiale.
Oui, mais vous oubliez une chose, que la Cour des comptes, là, c'est pas moi, parce que quand je vous l'avais dit une fois à un grand rendez-vous sur le prix de l'électricité, la haute trahison que ça représente, on m'avait dit « Pourquoi tu dis ça ?» Mais la Cour des comptes, c'est pas moi, vient de dire qu'il y a eu 30 milliards d'argent public qui est parti, non pas chez les Français, chez les fournisseurs d'électricité. Voilà pourquoi je propose, parce qu'à chaque problème, j'essaye d'apporter une solution. Le retour d'un prix national de l'électricité. Voilà. Donc, si vous voulez, en fait, l'argent part de partout, et puis maintenant, ils vont nous dire, bah, faut augmenter les impôts. Mais s'il n'y a pas de croissance, parce que Bruno Le Maire dit, ah oui, les recettes se sont effondrées. Ah, mais pourquoi ? Peut-être parce qu'on a le niveau d'impôt le plus élevé du monde, et peut-être aussi parce qu'on a une concurrence déloyale liée aux accords de libre-échange. Donc, en fait, tout se tient. L'économie productive française s'effondre, il y a moins de recettes, et donc, on a plus de déficit.
On est un pays qui produit moins, un pays de services, et reconnaissez que ce n'est pas évident d'inverser la machine et la tendance.
Bien évidemment, mais c'est quand même ce qu'on a proposé depuis 10 ans, régulièrement, ce que j'ai proposé, pas le seul, et reconnaissez qu'il est au pouvoir depuis 8 ans, 7 ans et demi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Mais justement, il reste encore 3 ans. Comment tenir dans une telle situation économique ? Est-ce que le député que vous êtes propose, je ne sais pas, un sursaut, une action, une réaction ?
Très simple. Je pense qu'il faut une motion de censure. Je demande aux Républicains qui tiennent la motion de censure dans leurs mains, qui passent leur vie à nous dire qu'ils sont des bons gestionnaires. Ils n'ont qu'une solution, s'ils veulent être crédibles. Censurer le gouvernement, puisqu'il y a déjà la censure possible, il manque les voix républicaines.
Je dis à Éric Ciotti.
Oui, de toute façon, c'est très simple. Ou Éric Ciotti devient Premier ministre et devient le Premier ministre de Macron. Je ne pense pas que c'est ce qu'il souhaite, j'espère pas. Ou il y a une censure pour qu'il y ait de nouvelles élections législatives, pour qu'il y ait une nouvelle majorité. Et là, je recommande une grande coalition de gens raisonnables allant des Républicains au Rassemblement National en passant par Debout la France. Pour éviter de continuer 3 ans de naufrage sur l'économie, mais aussi sur la sécurité, sur l'immigration.
Parlons-en.
On ne peut pas attendre 2027.
Sur la sécurité et l'aspect géopolitique, Vladimir Poutine a affirmé hier, Nicolas Dupont-Aignan, que l'attentat avait été commis par des islamistes radicaux, tout en maintenant, selon lui, un lien avec Kiev. Et on a appris que la France avait été visée par des tentatives d'attentat. Gabriel Attal l'a évoqué. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, puisqu'il y a eu un relèvement du plan Vigipirate, que la menace est prise au sérieux et que nous sommes suffisamment protégés, même s'il n'y a pas malheureusement de risque zéro nulle part?
Vous savez, on a des services de police, de renseignement exceptionnels, je leur fais confiance. Dans un moment grave, je pense qu'il faut se rassembler, pas faire de polémique. Je regrette que des mesures contre l'islamisme n'aient pas été prises, toujours pas prises. Et je regrette qu'on se trompe de conflit. Et je demande une nouvelle fois qu'on arrête la propagande folle contre la Russie. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine est un conflit local, ancestral, tragique, fratricide entre deux peuples frères qui ont vécu ensemble 400 ans. Et j'estime que la France commet un contresens géopolitique, historique, à mettre de l'huile sur le feu. Il devrait être proposition de paix. Le vrai défi, c'est l'islamisme.
Attendez,
qui gagne l'Afrique, gagne le Moyen-Orient. C'est pas la Russie.
Pour vous, c'est pas la guerre en Ukraine,
bien
c'est pas Vladimir Poutine, c'est la menace islamiste.
Mais bien évidemment. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu Vladimir Poutine contre Daesh en Syrie, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Donc, il faut arrêter ce délire. Et je le dis, je ne dis pas que Poutine a raison sur tout, bien évidemment. Je suis totalement neutre. Je dis simplement...
Est-ce qu'on peut être neutre aujourd'hui ?
Oui.
Totalement neutre, c'est-à-dire que
totalement.
Vous estimez que
les
vous mettez
partagés.
Sur le même... Les
totalement.
Torts sont partagés, mais
totalement.
À la fin, il y aura un vainqueur et un vaincu
non.
si on ne réagit pas.
Non,
pourquoi ?
Il faut... Pas qu'il y ait de vainqueurs et de vaincus, il faut la paix. Et cette paix est possible. Elle a été négociée à Istanbul en décembre 2022. Mmh. Qui a refusé ? Ce sont les Américains et les Anglais. Jacques Chirac, Dominique de Villepin, avaient proposé que l'Ukraine soit une zone démilitarisée, neutre, que l'OTAN n'avance pas. Dès 2014, l'OTAN a avancé. L'Ukraine a bombardé le Donbass. Poutine a agressé l'Ukraine. Les torts sont partagés.
Oui.
Soit on fait la paix.
Mais c'est quoi
soit
la,
on fait
paix.
La paix.
Allons plus loin. La paix,
oui.
c'est s'asseoir autour d'une table. Ce sont des négociations.
Oui.
C'est donc acter de concessions territoriales d'une perte de souveraineté. Est-ce que vous,
non,
à la tête d'un pays.
pas obligatoirement. Il y a une paix possible s'il y a une démilitarisation de l'Ukraine, si l'OTAN reste où elle est, n'avance pas, et si on comprend, dans la petite tête des Occidentaux, que cette guerre et le suicide de l'Europe au XXIe siècle fait le jeu de la Chine, la dépendance économique vis-à-vis des États-Unis et la puissance de l'islamisme à notre sud. Si on ne comprend pas qu'il y a des priorités, des choix à faire, eh bien, l'Europe sortira de l'histoire.
Vous dites si
l'Europe est en train de sortir de l'histoire par un conflit absurde.
Mais vous dites si l'OTAN n'avance pas.
Oui, l'OTAN doit s'arrêter.
Bien. Et quelle garantie vous avez que Poutine n'avance pas?
Mais Poutine est incapable d'avancer.
Pourquoi?
Physiquement.
Il n'y a pas d'impérialisme, il n'y a pas d'expansionnisme belliqueux.
Non.
Vous pouvez garantir ce matin qu'il n'irait pas plus loin, Pologne, Pays-Bas.
Pas pour une raison de volonté, il en a peut-être envie, mais pour une raison de force, il n'arrive même pas à conquérir le Donbass. Et vous croyez que face aux forces de l'OTAN gigantesques, il va agresser la Pologne? C'est une propagande folle. C'est une absurdité. Vous savez, si les États-Unis voyaient arriver au Mexique des bases chinoises, des missiles chinois, je crois qu'ils réagiraient. Si la France voyait à Monaco ou en Wallonie des bases chinoises et russes avec des missiles pointés sur Paris, je crois qu'on réagirait. Donc il y a un moment, il faut qu'on arrête ce conflit fratricide entre Slaves, entre chrétiens. Il faut qu'on voit les vraies menaces. Et je suis stupéfait de l'absence de vision historique de nos dirigeants. Ça me fait de la peine pour l'Europe.
Certains pourraient vous dire à partir de quel pays envahi il faut intervenir.
L'Ukraine a été russe pour la partie Est pendant des siècles. C'est une zone tampon. Je ne dis pas que la Russie doit se retirer, bien sûr. Mais il y a une possibilité, les deux parties sont épuisées. C'est le moment de la paix et la France, au lieu de mettre de l'huile sur le feu pour des raisons bassement électorales liées aux européennes, ferait mieux de jouer la paix et de défendre ses frontières contre l'intégrisme islamique.
En tous les cas, ce sujet, cette guerre impacte, si je puis dire, les élections européennes. Dans les différents sondages, Nicolas Dupont-Aignan, votre score est très modeste, mais chaque point compte dans cette âpre bataille. Est-ce que vous allez maintenir une liste souverainiste debout à la France, ou alors, compte tenu des difficultés, est-ce que vous vous retirez?
Eh bien, je vais vous le dire très franchement, j'ai beaucoup réfléchi. Et puis, je me suis dit, moi, mon rôle, c'est d'être à l'Assemblée nationale. J'ai été le seul député de droite dit à voter contre l'accord avec l'Ukraine. Je défends une vision gaullienne de la France et donc je resterai à l'Assemblée nationale et je conduirai pas de liste. Voilà. Parce que, d'abord, il y en a plein de listes. Et au moment où la France est en faillite et où il y a ce conflit, mon boulot, mon modeste boulot, il est de défendre une certaine idée de la France et de préparer les échéances suivantes qui me paraissent beaucoup plus importantes que les européennes. Voilà.
Il y a encore
et comme on
ne
peut pas tout faire dans la vie...
J'entends. Mais il y a encore quelques semaines, la liste souverainiste, votre liste était d'actualité. Pourquoi est-ce que vous renoncez?
Parce que
la certitude de ne pas rembourser les frais de campagne.
Les circonstances ont changé. Mon rôle, c'est d'être à Paris, à l'Assemblée nationale. C'est de préparer les deux échéances futures, législatives et présidentielles. Et puis, je vais être franc avec vous aussi. On aurait pu faire une liste debout la France sans moi. Ça aurait été très bien. Il y a des personnalités debout la France qui auraient pu la faire. Mais on n'avait pas les moyens financiers, ou du moins, on ne voulait concentrer, garder nos moyens financiers pour les échéances suivantes, parce que moi, j'ai toujours refusé la moindre dette. Vous savez, avant de bien gérer la France, il faut être capable de bien gérer son parti. Moi, j'ai toujours refusé des dettes à mon parti parce que je veux être un être libre.
Pas de liste, donc, Nicolas
Dupont-Aignan. Il n'y aura pas de liste parce que nous voulons concentrer nos moyens sur les échéances futures.
Comme chaque voix compte.
Et puis, il y a beaucoup de listes.
Pour qui vous appelez à voter?
Ah, ben, on verra le moment venu.
Vous voyez déjà tout. Vous connaissez les têtes de liste, les numéros 2, les numéros
3. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire battre à tout prix la liste, madame, je ne sais plus son nom.
Valérie Ayé.
Voilà. Et puis de M. Glucksmann, qui sont dangereux.
Dangereux.
Et après, oui, dangereux. Les deux sont dangereux pour la France. Parce qu'ils veulent supprimer la France. La rayer de la carte.
Supprimer la France.
Bah oui, quand vous transférez tous les pouvoirs à Bruxelles, vous supprimez la France. Après, vous avez toutes les nuances de souverainisme. Du plus souverainiste d'Asselineau, Philippot, après Bardella, Marion Maréchal. Et vous voudriez que moi j'ajoute ma petite musique? Moi, j'ai pas le goût des petites soupes. Voilà.
Ça reste quand même un scrutin, ça reste qu'une bataille.
C'est très important.
Vous l'aviez menée autrefois.
Mais oui, c'est très important. Mais il y a beaucoup de listes. Moi, je me concentre sur la France. C'est l'enjeu pour moi, en tout cas. Notre France est en train de crever. Je crois que tout doit être fait pour la sauver. Et c'est l'essentiel. Maintenant, bonne chance à tous ceux qui y vont, parce que c'est un noble combat.
À bon entendeur. Merci Nicolas Dupont-Aignan. C'est votre grande interview. Je vous dis à
Merci
bientôt.
Merci à vous.